Berger sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Europe 1. Je suis ravie de vous accueillir dans cette émission pour partager vos récits de vie. Accompagnée jusqu'à 16h par ma camarade Marlène. Bonjour Marlène.
Bonjour Eve.
Alors cette heure, c'est la vôtre. On va parler ensemble d'une pratique peu connue en France, le pro bono. Ça veut dire le bien public en latin et ça consiste pour certains salariés à travailler gratuitement pour une bonne cause, mais sur leur temps de travail, pas comme le bénévolat qu'on fait en dehors des heures de travail, le soir ou le week-end. Cette pratique du pro bono nous vient des cabinets d'avocats anglo-saxons qui ont commencé dans les années 80 à offrir leurs services aux plus démunis pour montrer qu'ils n'étaient pas là que pour gagner de l'argent, mais aussi pour que tous, y compris les plus pauvres, aient le même droit d'accès à la justice. Aujourd'hui, on trouve du pro bono dans des agences de publicité qui font des campagnes à l'œil au profit de certaines causes, ou encore dans les très grandes entreprises comme la SNCF ou le cabinet Accenture, qui permettent à leurs salariés de travailler pour des associations quelques jours par an, parfois plus, le temps d'une mission. En France, 30% des Français déclarent ainsi travailler pour le bien public dans le cadre de leur profession. Le pro bono ou comment mettre ses compétences professionnelles au service d'une bonne cause, c'est le sujet de notre émission cet après-midi sur Europe 1. On va en parler ensemble pendant une heure. Nous attendons avec impatience vos témoignages. Racontez-nous comment vous arrivez à dégager du temps de travail pour aider les autres et ce que cela vous apporte. Nous sommes là pour vous écouter.
Pour joindre Eve Roger, appelez-nous au standard Europe 1, le 39-21, 50 centimes d'euros la minute ou laissez-nous un message sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ainsi que sur la page Facebook de l'émission.
Europe 1, 15h-16h, partagez vos expériences de vie avec Eve Roger.
Ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait.
Le combat d'un chef d'entreprise qui se bat pour faire prospérer son entreprise. On pense bien sûr au film de Pierre Jolivet, sorti en 99, et sa BO signée Bachung. Voilà donc pour débuter cette émission, Eve, on donne le ton.
Bonjour Fabienne Haas, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Eve, merci beaucoup.
Alors vous êtes avocate associée au sein du cabinet Auguste de Bouzy à Paris, et c'est vous qui avez développé cette pratique du pro bono. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, mais très concrètement, en quoi ça consiste ?
Alors, la pratique du pro bono, comme vous l'avez rappelé, vient des cabinets américains. Et quand je suis revenue en France après une expérience américaine, j'ai tout de suite proposé que l'on accompagne des associations pour mettre en place des projets et faire face aux besoins juridiques qu'elles avaient, soit par exemple pour faire les statuts d'une association quand elle se crée, soit pour l'accompagner dans des partenariats avec des contrats commerciaux, soit si ces associations avaient des problématiques avec leurs salariés, les aider également de cette façon. Et donc, tous les secteurs du cabinet, tous les groupes du cabinet sont concernés, puisque notre idée, quand nous choisissons une association et nous choisissons de l'aider en pro bono, c'est de leur offrir tous les services du cabinet et toutes les compétences du cabinet.
Alors, est-ce que vous-même vous en faites du pro bono personnellement ? Est-ce que vous avez des clients ? Est-ce que vous avez des associations, des personnes individuelles que vous aidez ?
Alors, on préfère, nous, comme nous sommes avocats d'entreprise, notre compétence est plus au service d'associations elles-mêmes plutôt que de personnes individuellement.
D'accord.
Et donc, dans ces associations, moi, à titre personnel, oui, bien sûr, j'accompagne des associations dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Par exemple, dans le domaine de la santé, on est les avocats, puisqu'on appelle nos associations en pro bono des clients. Nous sommes les avocats de l'AMREF. Les Flying Doctors qui aident les sages-femmes et les médecins pour les problèmes de maternité en Afrique. On est également l'avocat d'un groupe scolaire des Centres Madeleine d'Agnelou. On est avocat de Toutes à l'école, qui est une association qui a créé une école pour des jeunes filles et des petites filles au Cambodge.
Et comment vous les choisissez, vos clients, justement ? Est-ce que c'est eux qui viennent frapper à votre porte ou c'est votre cœur qui vous guide ?
Alors, c'est les deux. C'est vraiment les deux. C'est tout d'abord, au début de l'histoire du pro bono, ce sont des associations qui sont venues frapper à notre porte, à la mienne en particulier, puisqu'il s'agissait par exemple pour ce groupe scolaire de Centre Madeleine d'Agnelou, une école que je connaissais puisque j'en suis une ancienne. Et puis au fur et à mesure, un certain nombre d'avocats du cabinet ont été approchés. Et le bouche à oreille fonctionne et les gens se parlent. Et par conséquent, il y a maintenant des associations qui viennent parce qu'elles savent que nous faisons du pro bono. C'est sur notre site internet. Les avocats du cabinet en parlent autour d'eux.
C'est connu, donc.
Ils sont extrêmement fiers.
Et combien de temps ça vous prend le pro bono? Je ne sais pas, un après-midi par semaine, un après-midi par mois? Comment ça se mesure?
Nous travaillons par heure. Et donc, quand on regarde, par exemple, sur l'année dernière, j'ai passé, moi, à titre personnel, plus d'une centaine d'heures en pro bono pour ces associations. Pour vous donner un autre exemple, on est également l'avocat d'une association qui aide les victimes du terrorisme. Et à l'époque des attentats, par définition, ils ont eu des problématiques extrêmement complexes sur le plan juridique. Et là, on a passé beaucoup plus de temps avec eux qu'on en passe hors période d'attentats à répétition. Donc, c'est très compliqué de quantifier, mais par avocat,
une centaine d'heures, vous avez dit, oui.
Oui, une centaine d'heures pour moi. Et probablement, on peut dire que plus de la moitié des avocats du cabinet ont déjà travaillé. Et s'ils ne l'ont pas fait, travailleront pour des clients en pro bono.
Et est-ce que vous travaillez avec ces clients-là exactement comme vous le faites avec les clients qui payent?
Absolument. Nous ne faisons aucune différence avec les clients qui payent. Nous leur rendons les mêmes services, la même qualité de service, la même rapidité, la même proactivité. Nous ne faisons aucune différence. Et en tant qu'associés, nous faisons très attention à ce que les collaborateurs fassent exactement la même chose. Et ils ne font d'ailleurs aucune différence. Et ils savent que le travail qui leur est demandé en pro bono a exactement la même valeur à nos yeux que le travail qu'ils font pour les sociétés classiques qui payent des honoraires.
Alors, il y a la règle. Et puis après, il y a l'inconscient. Peut-être que parfois, on le fait un peu plus par-dessus la jambe que d'autres.
Vraiment pas.
Non.
Vraiment pas. Vous savez, maintenant, plus de 20 ans que je travaille pour ce cabinet et que donc je ne travaille plus pour les Américains. Et à aucun moment, et même à l'inverse d'ailleurs, il y a des cas dans lesquels, quand on a des contentieux et des confrères adverses qui nous disent « mais votre cliente pourrait peut-être réfléchir à accepter un accord dans tel et tel domaine », on leur dit « nous, ça nous est égal » parce que autant votre client peut-être, lui, a envie de ne pas continuer à vous payer vos honoraires et donc a envie de trouver un accord, nous, ça nous est égal. On ira jusqu'au bout, puisque par définition, on accompagne notre client en pro bono, il ne paye pas d'honoraires et donc on ira jusqu'au bout. Ça n'a aucune importance et notre client n'a pas à se poser la question.
Des honoraires à payer à la fin.
S'ils ont à payer, Auguste de Bouzy.
Et dites-moi, qu'est-ce que ça vous apporte à titre personnel, Fabienne Haas? Pourquoi faire du pro bono plutôt que de travailler, par exemple, au Resto du Cœur?
Parce que je considère qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables et même peut-être meilleurs que moi pour travailler au Resto du Cœur. Quand on est avocat au sein d'un grand cabinet comme Auguste de Bouzy, qu'on a des compétences qui sont reconnues, en l'espèce, pour ce qui me concerne en droit du travail, je pense que le meilleur service à rendre à la société, c'est de mettre mes compétences, mon savoir-faire, ce que j'ai acquis en 30 ans de vie professionnelle, pour des personnes qui en ont besoin et qui, sans les compétences d'un cabinet comme Auguste de Bouzy ou sans les miennes, n'auraient jamais accès à la justice et à une aide sur le plan juridique comme ils pourraient l'avoir parce qu'ils n'ont absolument pas les moyens de se payer des cabinets tels comme le nôtre.
Alors, je vous pose juste une dernière question. Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous aidez ces gens-là? C'est quoi? C'est du bonheur? Un sentiment d'utilité? Qu'est-ce que vous diriez?
Alors, je dirais que j'éprouve beaucoup de bonheur parce que ce sont des clients qui sont évidemment très reconnaissants. J'éprouve aussi un sentiment d'utilité et un sentiment de reconnaissance et de pouvoir utiliser les compétences que j'ai acquises et qui m'ont été données par mes études et mon expérience professionnelle pour aider ceux qui n'ont pas eu la chance peut-être d'être dans des situations qui leur permettent, dans des situations complexes, d'avoir recours à des avocats comme ceux de notre cabinet et à moi en particulier, puisque vous me posez la question à titre personnel. Mais c'est un vrai bonheur.
Merci beaucoup Fabienne Haas de nous avoir fait partager votre expérience, de nous avoir raconté votre engagement au sein même de votre grand cabinet d'avocats. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Brigitte qui, elle, consacre, non pas quelques heures par semaine ou par mois, mais la totalité de son temps de travail à une association.
Europe 1. Vous aussi partagez vos expériences de vie. Ève Roger est avec nous jusqu'à 16h sur Europe 1 pour la joindre et raconter votre histoire. Composez le 3921, le standard d'Europe 1, 50 centimes d'euros la minute. Il y a Twitter aussi avec le hashtag Europe 1 et la page Facebook de l'émission. On vous attend.
Affaires. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire.
Les mots de Luc Plamondon et la musique de Michel Berger. Nous sommes en 78, Starmania bien évidemment, première mouture avec Claude Dubois au chant, incarnant cet homme d'affaires qui a réussi professionnellement mais qui se rend compte qu'il aurait préféré suivre une autre voie artistique, vraisemblablement. Cet après-midi, sur Europe 1, on s'intéresse au pro bono ou comment mettre ses compétences professionnelles au service d'une bonne cause. Partageons nos expériences de vie jusqu'à 16h avec vous, Ève Roger.
Alors nous sommes maintenant en ligne avec Brigitte Bonnet. Bonjour Brigitte, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Alors vous, c'est spectaculaire, enfin j'ai trouvé ça. Vous travaillez au sein de Groupama depuis 2002 et depuis l'an dernier... Tout votre temps de travail, vous le consacrez entièrement à une seule association et plus du tout à votre boîte. Alors, racontez-nous.
C'est ça. Alors, écoutez, l'année dernière, en fait, j'ai fait savoir à mon DRH, mon directeur des ressources humaines, que j'avais envie de changer, enfin, en tout cas, d'arrêter la fonction que j'occupais, qui était celle de responsable d'un secteur commercial. Parce que j'avais à minima 2 heures de temps de trajet, donc c'est vrai que c'était lourd en plus de l'animation d'une équipe de 14 collaborateurs, de 9800 clients et de pratiquement 11 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Bravo, mais vous donc, en aviez un peu marre.
C'est surtout la fatigue, quoi. Ouais. C'est quand c'est tous les jours, des horaires, le risque sur la route. Une implication forte auprès de mon équipe parce que quand on est responsable d'équipe, c'est quand même ce qui nous fait vibrer au quotidien.
Et donc votre DRH vous a proposé de travailler pour une association. Vous saviez que ça existait ?
Alors, je ne savais pas du tout que ça existait. Il m'a parlé du mécénat de compétences. Donc, c'est vrai que j'ai fait des yeux tout ronds parce que je ne connaissais pas du tout. Alors, c'est quand même un dispositif qui existe depuis 2003, hein, faut le savoir. Donc, et c'est un dispositif vers lequel s'ouvre Groupama. Donc,
alors, vous, pour vous, comment ça s'est passé?
Alors, moi, j'ai rencontré l'association Pro Bono Lab, qui crée des liens entre entreprises et associations. Et ça a été l'occasion avec la personne en charge du développement de ces relations entre entreprises et associations de faire une étude de ma personnalité au travers de questionnaires, de l'étude de mon parcours, tout ça, on fait une étude assez approfondie pour voir vers quelle association mes compétences pourraient être mises à disposition.
Et vous êtes tombée sur la Cité d'Or à Lyon. Alors, qu'est-ce que c'est cette association ?
Alors, les Cités d'Or à Lyon, c'est un mouvement d'éducation populaire qui travaille avec des jeunes de 16 à 25 ans autour de projets collectifs et puis d'un compagnonnage de sens. Enfin, c'est une pédagogie atypique et un parcours de 6 mois qui va permettre à ces jeunes, au sein de ce qu'on appelle une école buissonnière, d'explorer et d'approfondir des compétences humaines et civiques fondamentales pour qu'ils puissent gagner en autonomie et en pouvoir d'agir en tant que citoyen.
Donc vous travaillez pour eux, je suis désolée, il faut qu'on aille un peu vite, est-ce que ça veut dire que vous travaillez pour eux tout le temps, mais qu'est-ce que vous faites pour eux ?
Alors pour eux, bien au sein de l'association, j'ai une mission de structuration RH parce que les choses sont quand même clairement définies sur ce que je fais aux côtés de l'équipe qui est passée de 4 à 8 collaborateurs. C'est l'année 2018 a évolué beaucoup pour l'association. Donc j'accompagne l'équipe non seulement dans le changement qu'elle a vécu, mais aussi dans la transition d'activité puisque l'association s'est engagée dans un essaimage de son format des écoles buissonnières.
Donc ça veut dire que vous travaillez chez eux, dans leurs locaux.
Voilà. Alors,
vous n'êtes plus du tout à votre bureau de Groupama.
Parfois je passe à Groupama ou je travaille à Groupama avec l'association parce que ça nous permet de sortir des locaux. Il faut être quand on a été manager, on sait ce que c'est que l'adaptabilité et la souplesse au quotidien. Donc ça permet aussi à l'association de voir ce que c'est que la vie
d'une grande entreprise. Les compétences que vous demande cette association sont les mêmes que celles que vous avez utilisées dans votre poste de responsable commercial, où vous avez dû développer vous-même de nouvelles compétences ?
C'est surtout que je me sers de ce que mon expérience de 35 ans m'a permis d'acquérir et je retranscris avec les besoins de l'association. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je continue d'entretenir, c'est tout ce qui est écoute pour répondre aux besoins de l'association, les besoins qu'ils peuvent avoir. Bon, je suis amenée par exemple à créer une fiche d'événements que l'association organise. Voilà, ça me permet aussi de faire de nouvelles choses. Ça donne un nouveau sens à ma carrière professionnelle. Voilà.
Et on est bien d'accord, c'est Groupama qui vous paye, toujours.
Tout à fait. Groupama est mon employeur, reste mon employeur. Je suis très fière de mon appartenance, même si je ne vais plus tous les jours à mon ancien bureau, parce que c'est une vraie reconnaissance des 16 ans du travail effectué au sein de Groupama.
Donc, et dites-moi, cette mission va durer combien de temps pour terminer ?
Alors pour le moment, on est sur 2 ans. Et puis, comme Groupama a à cœur en tant qu'acteur local aussi de développer cette possibilité, hein, qui est vraiment l'incarnation concrète de tout ce qui est responsabilité sociétale de l'entreprise, on verra au bout de 2 ans. Puisque
plus y affinité, quoi.
Voilà, exactement.
Merci beaucoup, Brigitte, de nous avoir fait partager votre expérience. Nous serons dans quelques minutes avec Julia de Funès. Elle est philosophe et auteure du livre « La comédie inhumaine » aux éditions de l'Observatoire.
Véronique nous a laissé un message sur les réseaux sociaux pour nous dire qu'avant, les entreprises faisaient du mécénat de compétences de manière discrète. Aujourd'hui, les associations et les grandes entreprises sont contentes d'afficher leur soutien pro bono sur leur support de communication. Je trouve ça plutôt bien, dit-elle.
Europe 1.
N'hésitez pas, vous aussi, à nous appeler au standard d'Europe 1, 39 21 50 centimes d'euros la minute. Vous pouvez aussi nous laisser un petit message sur la page Facebook de l'émission et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Chantée par les amis de Blanche-Neige, les 7 nains.
Ils sont heureux au travail.
Heureux. Voilà. On parle aujourd'hui des salariés qui mettent leurs compétences professionnelles au profit d'une association ou d'une ONG sur leur temps de travail. Du bénévolat au bureau, en quelque sorte, nous sommes avec Ève Roger jusqu'à 16h sur Europe 1.
Et je me tourne maintenant vers vous, Julia de Funès. Vous êtes philosophe et auteure de La comédie inhumaine aux éditions de l'Observatoire. Bonjour, merci d'être avec nous en
Bonjour
studio.
Ève.
Dites-nous, déjà pour bien comprendre, quelle est la différence entre le pro bono et le bénévolat ?
Oui, le pro bono, c'est vraiment sur le temps de travail. Le bénévolat, c'est on peut le faire à titre individuel en plus de son activité professionnelle. Donc là, l'intérêt et le désintérêt, c'est qu'effectivement, ça prend une partie du travail et c'est toute la différence. Et après, on a vu à travers les témoignages que vous avez fait passer là, que la différence, c'est que le bénévolat, c'est vraiment altruiste. Là, il y a malgré tout dans le pro bono, même si je le critique pas du tout, il y a malgré tout un intérêt pour l'entreprise. On le voit à travers le cabinet Auguste Debouzy, ça fait de la pub aussi pour le cabinet. À travers Groupama, ça fait de la pub. Toutes les entreprises qui font ça, c'est du marketing éthique d'une certaine façon, du marketing, si je jouais un peu sur le mots.
C'est-à-dire que le pro bono n'est pas destiné à rester discret.
Non, et puis de toute façon, pourquoi rester discret ? Je ne suis pas en train de moraliser l'affaire, mais c'est vrai que c'est une valorisation pour l'entreprise aussi, alors que le bénévolat, c'est vraiment une valorisation à titre individuel.
Alors, quelle forme peut prendre le pro bono à l'intérieur d'une entreprise ?
Toutes les formes diverses. Je connais beaucoup d'entreprises. Salesforce, par exemple, est une entreprise qui est excessivement axée sur le pro bono. Et donc, ils sont...
Ils font de l'informatique, hein, c'est bien ça ?
Oui, c'est une grande société d'informatique et ils font beaucoup ils sont au service de beaucoup d'associations dans des domaines complètement divers. Ils font des restaurants sous la Madeleine pour les SDF, ils vont en Afrique pour les problèmes de maternité. Enfin, c'est divers et varié. Il n'y a pas de secteur spécialisé.
Et vous avez le sentiment que le pro bono aujourd'hui est en augmentation ou que ça existe depuis peu de temps ? On connaît très peu ce terme, la pro bono.
Oui, c'est déjà pas un très joli terme, même si le latin, on entend bonobo, donc c'est pas terrible. Mais il y a une recrudescence. Pourquoi actuellement ? Même si ça existe depuis un certain temps, en tout cas, c'est devenu très visible et ça devient de plus en plus visible. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a une crise de sens dans les entreprises et pour les salariés. Donc le fait de contribuer à une cause plus grande que la sienne ou à une cause plus grande que la cause uniquement économique de l'entreprise fait sens. Et donc l'entreprise a l'impression de répondre à l'attente du sens quand elle permet à des salariés de participer à un projet de cette envergure-là. Et puis, on le voit avec la loi Pacte, par exemple, qui est en train de rentrer vraiment en vigueur. L'entreprise a besoin d'une cause plus grande qu'elle-même. C'est-à-dire que la performance économique, la performance pour la performance ne suffit plus du tout à justifier l'existence de l'entreprise. Elle a besoin d'être engagée dans des combats plus nobles, plus grands. Et donc, c'est pour ça qu'avec tout cet engouement pour l'altruisme me semble très à la mode, mais pas au sens péjoratif du terme.
C'est une tendance. Est-ce que c'est une tendance, oui. C'est plutôt les jeunes générations qui poussent au pro bono ou c'est vraiment toutes générations confondues?
Maintenant, c'est toutes générations confondues parce que dans les entreprises, il y a des salariés qui sont plus ou moins âgés et qui le font. Il y a une tendance qui vient des plus jeunes générations, cette tendance, on les appelle les slasheurs. Et c'est un peu ce qui se passe pour le salarié. Quand on est contrôleur de gestion, par exemple, mais qu'en plus on contribue à une association, on a le sentiment d'être un slasheur. C'est pas
alors,
mal.
Le slasher, expliquez-nous.
Oui, c'est-à-dire qu'on a plusieurs métiers dans une vie. On n'est plus du tout consacré à une carrière, à une fonction uniquement. Et on peut avoir 10, 15 métiers. Les millennials, par exemple, ne s'engagent plus dans une carrière. Ils vont plus vouloir être uniquement journaliste ou uniquement DRH. Ils vont faire plusieurs fonctions. Et à travers cette expérience du pro bono, je trouve qu'il y a un peu cette idée de slasher. On a plusieurs vies en une et on comble un peu les manques qu'on n'a pas pu assouvir dans sa jeunesse.
Et vous parliez du manque de sens dans les entreprises aujourd'hui. Il vient d'où ce sentiment que l'entreprise, les résultats, la performance, ça ne suffit plus? Ça vient de la crise économique, par exemple?
Alors, il y a plusieurs raisons, bien sûr. C'est une question qu'on se pose quand on a traverser justement les exigences économiques. La Chine aujourd'hui se pose pas la question du sens et du pro bono, c'est vraiment de la performance économique. Nous, on a le luxe de pouvoir se poser la question du sens ultime de l'entreprise. On traverse une crise de sens pour plusieurs raisons. J'en donne deux qui me semblent les plus importantes. Un, parce qu'il y a une chute des transcendances justement. On ne croit plus autant à la politique, on la voit à travers les élections. On ne croit plus du tout autant à la religion, c'est plus une affaire d'État. On n'attend plus de la religion ou de la politique qu'elle guide les existences. Donc il n'y a plus d'autorité transcendante comme ça. Et on attend désormais beaucoup de l'entreprise, cette nouvelle transcendance, qu'elle guide un peu, non pas les existences entièrement, mais qu'elle guide les chemins de vie. Et donc cet idéal-là rentre dans cette nouvelle transcendance qui est devenue l'entreprise. Et dernière chose sur pourquoi une crise de sens, parce que pour faire face à l'urgence économique, au marché darwinien, seuls les meilleurs économiques restent, demeurent sur le marché, il faut techniciser les métiers, il faut moderniser les métiers. J'étais dans une compagnie d'assurance il n'y a pas longtemps qui me dit Amazon arrive sur le terrain de l'assurance, donc qu'est-ce qu'on fait? On technicise, on modernise nos métiers.
Et quel rapport avec le pro bono?
J'arrive. La technique, c'est exactement l'inverse du sens. Les métiers sont devenus techniques, c'est-à-dire qu'ils ont perdu de vue la finalité ultime de ce qu'ils faisaient ou pourquoi ils étaient faits. Et les gens, quand ils sont, je vous donne rien que les intitulés de poste, sont très techniques. D'ailleurs, on ne dit pas quel est ton métier, on dit quelle est ta fonction, quel est ton poste. Aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup plus technique. Quand un type est coordinateur de flux transverse, par exemple,
comment il a un métier coordinateur transverse.
Par exemple, oui, ou chef de mission, ou chef de projet, on ne sait plus ce que ça veut dire. C'est très, humanisant et très confortable pour lui d'avoir un sens ultime dans son entreprise en se disant oui, mon métier est utile, mais je ne vois plus la réalisation de ce que je fais. Je sais que je suis un petit maillon utile dans un engrenage beaucoup plus global, mais au moins j'ai du sens dans ma mission de pro bono par ailleurs.
Et juste, dites-moi, l'entreprise, elle n'est pas faite pour faire de la philanthropie, donc qu'est-ce qu'elles gagnent les entreprises au pro bono? Est-ce qu'elles gagnent même de l'argent grâce à ça?
Je le disais, c'est un peu du marketing. Donc elles gagnent déjà une reconnaissance, une publicité. C'est beaucoup plus attractif, même pour les plus jeunes, d'aller bosser pour une entreprise qui a ce souci-là altruiste, environnemental, etc. Donc ça, il y a du marketing, il y a un intérêt moral de l'entreprise à faire ça. Il y a un énorme intérêt à fidéliser ses collaborateurs, parce que les plus jeunes, les millennials, si l'entreprise ne fait pas ça, être juste dans la performance économique ne suffit plus
pour les attirer,
à recruter et à fidéliser les collaborateurs. Et enfin, ça rend les gens, et on a vu à travers le témoignage de l'avocate, ça rend les gens beaucoup plus heureux, en tout cas, je critique toujours un peu le bonheur au travail, mais en tout cas, plus épanouis. Ils ont l'impression de se réaliser au travail.
Merci. Restez avec nous, Juliette Funès, philosophe et auteure de La Comédie Inhumaine aux éditions de l'Observatoire. Dans quelques instants, nous allons accueillir Elsa Taschini. Elle est docteure en psychologie et consacre 2 jours de sa semaine gratuitement aux femmes victimes d'addiction.
Alors Juliette va dans le sens de ce qui vient d'être dit, puisqu'elle nous a laissé un message au 3921. Elle nous dit « Partager mes compétences, c'est donner du sens à mon métier en servant l'intérêt général. Et donner du sens à mon métier, c'est tout simplement donner du sens à ma vie. »
Europe 1.
Si vous souhaitez, comme Juliette, nous laisser un message, rien de plus simple, 3921, c'est le standard d'Europe 1. 50 centimes d'euros la minute ou encore les réseaux sociaux, vous pouvez nous laisser un petit message Twitter avec l'hashtag Europe 1 et bien sûr la page Facebook de l'émission. Vous êtes bien sur Europe 1 jusqu'à 16h. Partageons nos expériences de vie. 3921 pour joindre Ève Roger et intervenir à l'antenne.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Elsa Taschini. Bonjour et bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci.
Bonjour, alors vous êtes docteur en psychologie au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. Vous avez cofondé une association qui s'appelle Addictel, qui vient en soutien aux femmes victimes d'addiction. Et vous avez choisi de consacrer 2 jours par semaine à votre association. Sous quelle forme vous aidez-vous ces femmes ?
Alors, je les aide en exerçant mon métier de psychologue auprès d'elles. Alors après, par des interactions plus 2.0, on va dire, puisque c'est via les réseaux sociaux, par téléphone ou par Skype.
Mmh. Alors, ça veut dire que vous recevez ou vous parlez à des femmes en consultation à Sainte-Anne, ça c'est votre métier. Et dans le cadre de votre association, vous faites exactement le même métier. Alors, pour les unes, vous êtes rémunérée, pas pour les autres, c'est un peu ça, si je caricature.
Oui. Tout à fait. Enfin, ma fiche de poste, forcément, à Sainte-Anne est plus éclectique et j'y exerce bien plus de missions, bien entendu. Mais c'est une, en tout cas, de mes compétences vraiment directes de psychologue j'exerce auprès d'elle.
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce pas, cet engagement ? Pourquoi ? Il fallait en faire plus pour aider plus de monde ?
Alors oui, pour être plus visible, parce que souvent, en fait, on se rendait compte qu'elles entendaient parler de notre service, par exemple, et notre consultation, parce qu'elles avaient cherché de l'aide et qu'elles avaient déjà été... c'est en étant dans une démarche qu'en tapant dans Google, elles nous avaient trouvé, et nous, on voulait qu'elles nous trouvent avant d'avoir besoin de faire cette démarche vraiment directe sur Google, par exemple.
Et ça, c'est l'association qui a permis ce chemin ?
Oui, puisque comme on est présent sur les réseaux sociaux, eh ben, ça permet que leur entourage ou par les réseaux, ils entendent parler de nous en amont, mais aussi par notre présidente Fatma Bouvet de la Maisonneuve et fait souvent des interventions médiatiques où elle peut aussi finalement accéder via le poste de télé, de radio ou de télévision, accéder à ces femmes et du coup faire de la prévention aussi.
Ah oui, je comprends. Mais 2 jours par semaine, ça paraît quand même beaucoup pour vous consacrer à une association. C'est quasiment la moitié de votre temps.
Alors ouais, c'est peut-être pas 2 jours, c'est vraiment, vous connaissez les réseaux sociaux et du coup leur, tout de suite, qui fait que ça peut pas vraiment attendre. Donc si je moyennise, ça représente 2 jours par semaine, mais sûrement que je fais des jours peut-être plus longs à certains moments qu'à d'autres.
Voilà. Et qu'est-ce que vous y gagnez à cette association ? Qu'est-ce que ça vous apporte de plus que votre métier ?
Alors, qu'est-ce que ça m'apporte ? Eh ben, sûrement un sentiment d'utilité, déjà, de mettre au service mes compétences pour quelque chose qui m'est cher. Et puis, parce que le milieu associatif, du coup, ça correspond aussi à des valeurs, plus que simplement à mon métier, par exemple, quand je l'exerce à l'hôpital.
Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que les valeurs ne sont pas les mêmes dans l'association et dans l'hôpital. C'est quoi la différence ?
Alors, je dirais que dans l'association, la dimension vraiment d'entraide entre femmes qui est très présente.
Mmh. À l'hôpital, vous ne voyez pas seulement des femmes.
À l'hôpital, je ne vois pas seulement des femmes. Même s'il y a aussi une consultation femme, je ne vois pas seulement des femmes.
Est-ce que
la consultation n'est pas... Voilà, c'est une seule dans tout... peut-être pas dans tout Paris, mais en tout cas, c'est une seule et c'est pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui soient spécialisées comme ça.
Et vous pensez que les femmes qui viennent auprès de l'association, vous ne les verriez pas dans l'hôpital, en fait ? Ce n'est pas le même public, d'une certaine façon ?
D'une certaine manière, oui, parce que c'est difficile de se reconnaître comme malade alcoolique et que l'étiquette de la psychiatrie, etc., exerce, on va dire, un double frein auprès de ces femmes parce que, bah, comme pour un homme, hein, pour le coup, le déni pour se reconnaître malade et s'exerce pendant longtemps et il faut vraiment s'évertuer à être visible, à être proche, à être dans la proximité vraiment de terrain pour pouvoir qu'elles accèdent à nous, enfin à nous les soins, quoi, je veux dire.
Et est-ce que le métier que vous faites dans l'association auprès de ces femmes-là vous rend plus heureuse vous-même que votre métier à l'hôpital ?
Alors, pas plus heureuse, mais ils y concourent chacun.
Merci beaucoup Elsa Taschini pour votre témoignage. Dans quelques instants, nous serons avec Valérie Acari. Elle est à la tête d'une très grande agence de publicité qui conçoit des campagnes gratuites pour certains clients.
Et vous pouvez continuer à réagir et à témoigner sur les réseaux sociaux comme Jacques, qui n'a pas précisé ce qu'il faisait, mais il nous dit « Pour moi, cela va de soi de mettre mon expertise à disposition au service des personnes qui vivent en difficulté. »
Europe 1.
Continuez à réagir au 39-21, standard d'Europe 1, donc 50 centimes d'euros la minute. Vous pouvez également publier un commentaire sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et sur la page Facebook de l'émission. de la chanson composée par le groupe Téléphone, sortie en 1984 et chantée par Jean-Louis Aubert, qui figure d'ailleurs dans un album plus tonique, plus dansant, plus positif. Le pro bono, on en parle cet après-midi, ou comment mettre ses compétences professionnelles au service d'une bonne cause. Oui, un autre monde. Ève Roger, vous êtes avec nous jusqu'à 16h sur Europe 1.
Et nous accueillons maintenant Valérie Acari. Bonjour, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour, est-ce que vous êtes présidente de l'agence de publicité BBDO, où certains salariés consacrent une partie de leur temps à concevoir des campagnes gratuitement pour des clients? Ça existe depuis quand, ces campagnes gratuites?
Oh, ça existe depuis quand même quelques années déjà. J'ai tendance à dire que c'est devenu de plus en plus important. Voilà, alors, plutôt comme ça.
Quelle est la part de ces campagnes par rapport à celles que vous facturez en pourcentage?
Oh, je ne saurais pas donner un pourcentage exact parce que d'abord ça change vraiment selon les sujets, mais d'autant plus que si vous voulez, on accompagne, j'ai envie de dire, des associations, des causes en fait, plutôt sur le long terme, mais il y a au moins une ou deux associations qui nous occupent, je dirais, dans l'année. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être 5-10%, je ne me rends pas bien compte en termes de temps, mais on travaille avec eux surtout comme si c'était un client qui nous payait normalement, avec la même attention et le même professionnalisme.
Et quels salariés travaillent pour ces campagnes? Est-ce que c'est sur la base du volontariat ou vous désignez les salariés qui vont travailler sur ces campagnes?
Ah non, c'est complètement volontaire. C'est volontaire, mais c'est recherché. Parce qu'en fait, et c'est à tous les niveaux, ça va être autant de la conception, de la stratégie que de la production. Et généralement, ce sont de belles causes. Et c'est recherché à la fois pour, l'idée, en fait, l'envie d'être utile, hein, de mettre son savoir-faire au service de causes, de choses qui font du bien à la société, et également pour la capacité qu'on peut avoir aussi à développer de belles idées.
Parce que ça veut dire que vous dites c'est recherché, ça veut dire que les salariés ont envie de travailler pour ces campagnes-là?
Ah ben bien sûr, oui. C'est assez logique. De toute façon, les salariés, vous savez, ils travaillent pour, ils aiment généralement travailler pour à peu près tous les clients. Enfin, à partir du moment où une relation de confiance s'instaure et on a l'impression qu'on fait progresser le sujet. Ça peut être une marque, ça peut être effectivement une cause. Et ça intéresse effectivement dans ces cas-là plein de personnes dans l'agence.
Alors, il paraît que c'est parfois plus difficile pour vous, car vous dites qu'il faut trouver des photographes et des réalisateurs qui ne travaillent pas dans l'agence, mais qui travaillent quand même gratuitement. Alors, est-ce qu'il y en a peu? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Comment ça se passe avec eux?
C'est exactement pareil que pour nous. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il y a au contraire, quand on fait des campagnes, on a notre partie à nous qui va être une partie de conception et de production, mais effectivement, très souvent, on fait travailler des photographes ou des réalisateurs ensuite sur l'exécution. Et en fait, ces personnes, elles ont généralement plutôt envie de travailler également, surtout si une idée est belle. Simplement, il faut qu'ils aient le temps. Et comme on est dans une relation avec une cause où elle n'a pas d'argent généralement, et on ne va pas lui faire dépenser d'argent, parce que tout l'intérêt, toute l'importance pour ces causes, c'est de mettre l'argent qu'ils ont au service de leur cause, et non pas ailleurs. Du coup, on y arrive assez facilement, finalement. Simplement, il faut un petit peu chercher. Il faut avoir la bonne personne qui ait le temps de le faire, qui ait envie, qui trouve qu'à nouveau, l'idée est formidable. Et voilà, ça demande un petit peu de temps, généralement.
Et comment vous choisissez les clients pour qui vous travaillez, ces associations, ces ONG qui viennent frapper à votre porte, qui viennent vers vous? C'est vous qui avez des contacts avec elles?
Alors, ça peut complètement dépendre. Alors, il y en a qui viennent frapper à nos portes. Après, il se trouve que nous, on a une petite réputation, visibilité dans ce domaine, parce que c'est vrai que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on développe des campagnes efficaces. Et du coup, il y en a certaines qui viennent nous voir. Et puis après, oui, ça peut être totalement par relation, par intérêt. Nous-mêmes, on est allé voir parfois certaines associations, certaines causes, en leur disant, écoutez, on aimerait bien vous accompagner. Oui. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'il y en a certains qui vont plutôt faire des coups, ce qu'on appelle des coups de communication, c'est-à-dire une seule fois. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'accompagner les associations sur le long terme. On travaille avec CARE, par exemple, et ça fait maintenant 3-4 ans qu'on les accompagne. On a travaillé avant avec Plan, on a travaillé avec la Fondation pour la Nature et l'Homme de Nicolas Hulot. Enfin, mais tout ça, pour la Fondation de la Recherche Médicale, et à chaque fois, ça dure plusieurs années. Donc on est dans une relation, en fait, comme avec un vrai client.
Alors justement, ça paraît paradoxal qu'un milieu comme celui de la publicité, qui donne une image un peu cynique, un peu matérialiste, puisse se consacrer comme ça à des choses justement gratuites.
C'est-à-dire que vous savez, les gens qui travaillent dans la publicité, ce sont des gens comme les autres. Hein. C'est-à-dire qu'ils aiment les idées, ils aiment la création, ils aiment la stratégie. Et ils essaient de faire le mieux possible pour valoriser en fait des marques, créer des campagnes. Il y a eu un temps, je pense, il y a quelques années où il y avait un petit peu de cynisme. Ça fait bien longtemps
peut-être.
Que c'est terminé.
Peut-être on reste à cette image. Parce que l'idée, c'est quand même de pousser à la consommation, la pub. Donc là, on a l'impression qu'on est un peu dans la démarche inverse.
Ben, on est dans une démarche qui est dans une démarche de communication. Une des grandes parties de la publicité qu'on fait toujours, c'est des changements de comportement. Par exemple, un de nos grands clients, c'est l'État. Vous savez, on fait énormément de campagnes aussi pour, à un moment donné, faire arrêter que les gens fument moins, qu'il y ait moins d'accidents sur la route. C'est-à-dire, la communication, elle est au service de plein de choses. Elle travaille sur les changements de comportement. Ils peuvent être effectivement au bénéfice d'un produit, mais ils peuvent être au bénéfice d'une cause ou d'autres choses. Donc, c'est tout à fait normal pour nous d'avoir ce type de domaine. Alors là où vous avez raison, sans doute, c'est que dans notre équilibre personnel, il est sans doute vrai que c'est bien aussi de mettre nos talents au service de causes qui sont, entre guillemets, gratuites. Je pense que c'est quelque chose que nous recherchons, et la jeune génération en particulier.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Et donc, on continuera à faire ça.
Voilà. Justement, donc, individuellement, si je vous pose la question pour terminer individuellement, qu'est-ce que ça vous rapporte à vous ? Je pose la question à tout le monde. Est-ce que c'est du bonheur, le sentiment d'être utile ou autre chose ?
Ah ben, il est certain, enfin c'est comme tout le monde, hein. Quand moi, à titre personnel, je suis plutôt très engagée dans pas mal de choses et je mets ma connaissance de mon métier au profit de cause et je donne et ça me donne. C'est toujours le principe, ça vous donne de cette situation, du bonheur, l'idée d'être utile, mais également de bien faire mon métier parce que tout d'un coup, on fait des magnifiques idées pour des causes et que ça fait progresser ces causes, ça les fait connaître mieux et c'est formidable. Et on est toujours fiers quand on fait bien son métier.
Merci mille fois Valérie Acari pour votre témoignage. Je me tourne vers vous, Juliette Funès. Juliette de Funès, vous êtes avec nous depuis le début de l'émission. Vous êtes philosophe et auteur de La Comédie Inhumaine aux éditions de l'Observatoire. Je remarque qu'on n'a que des femmes depuis le début de cette émission. Est-ce que le pro bono est une pratique féminine ?
Non, je conclurai pas comme ça parce que je rencontre aussi beaucoup d'hommes qui sont aussi dévoués et dédiés à des causes. Peut-être qu'il y a un souci de l'autre qui s'explique par les femmes. Alors là, toutes les féministes vont me tomber dessus si je dis ça. Le soin, le care, c'est peut-être une valeur plus féminine, mais je peux pas du tout conclure sur cette dichotomie un peu trop arbitraire. En revanche, ce qui valorise et ce qu'on a entendu à travers tout le monde. Pourquoi c'est plus valorisant que de donner de l'argent, par exemple, directement ?
Bien sûr.
Parce que la richesse est toujours un peu suspecte. On l'a vu avec Notre-Dame, quand les grandes richesses donnent de l'argent pour une cause plus grande qu'eux-mêmes, c'est contesté, c'est contestable, parce que la richesse est encore vue comme un privilège, comme une inégalité, donc comme une injustice. Dans notre ère égalitariste, la meilleure chose à donner, c'est le temps. Parce que le temps, on en a autant, vous que moi. Une journée pour vous ou une journée pour moi, c'est exactement la même chose. Donc c'est neutre, c'est sans privilège du tout. Donc quand on donne son temps, on est quand même un peu meilleur que l'autre qui pourrait donner lui aussi son temps. Donc c'est aussi une valorisation singulière à partir de quelque chose de totalement égalitaire qu'est le temps. Et c'est pour ça, je trouve que ça a tant d'ampleur aujourd'hui, même si ça n'existe pas, que ça existe depuis longtemps. C'est parce qu'on est dans cette ère aussi très égalitariste où ce qu'il faut donner, c'est ce qu'on a de commun entre nous tous.
Le temps. Bah justement, on n'en a plus beaucoup. Alors pour conclure cette émission, nous allons regarder de l'autre côté du miroir et accueillir Alexis Janicot. Cet étudiant a fondé une association et c'est son association qui bénéficie du pro bono.
Europe 1. Et faites-nous part de vos témoignages. Merci d'ailleurs pour tous les messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux. Il y a Twitter avec le hashtag Europe 1, la page Facebook de l'émission Partageons nos expériences de vie. Et bien sûr, le standard d'Europe 1 3921 vous attend. Expérience de vie, vous écoutez Ève Roger jusqu'à 16h sur Europe 1. On s'intéresse cet après-midi à une pratique au service de la bonne cause, le pro bono dans les entreprises.
Alors bonjour Alexis Janicot, bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Alors bonjour. Vous ne faites pas du pro bono, c'est l'inverse, vous en bénéficiez pour votre association Cheer Up qui accompagne et aide des jeunes malades du cancer à se réinsérer dans la vie professionnelle. Racontez-nous pour quelles raisons vous avez demandé de l'aide.
En fait, le pro bono, c'est un dispositif qui nous permet de trouver des nouvelles idées qui vont nous aider à proposer des solutions.
Alors,
pour
si je résume, vous avez demandé à une plateforme qui s'appelle Pro Bono Lab, pour nos auditeurs, de l'aide. Vous avez demandé à des entreprises qui pourraient vous aider dans le cadre de votre association. Et vous avez eu plusieurs réponses, puisque vous avez eu droit à 6 journées de pro bono. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Concrètement, en fait, travailler en mode pro bono, c'est définir déjà dans son association les besoins que l'on a, puis après échanger avec donc cette association Pro Bono Lab, qui va nous mettre en relation avec des compétences qui sont en entreprise et qui vont nous permettre de résoudre le problème que l'on a.
Donc vous avez eu plusieurs entreprises qui sont venues vous voir, et qui vous a aidé à faire quoi ?
Pour donner un exemple très concret, l'une des problématiques que l'on a par rapport aux jeunes qui sont en rémission et qui cherchent un emploi, c'est de trouver les mots pour parler de leur cancer face à un recruteur. Et donc, quoi de mieux que demander à des recruteurs des idées sur la manière dont il faudrait que les jeunes abordent cette phase de recrutement. Et donc, pendant une journée, on a eu des RH, des managers, des personnes qui travaillent en entreprise, qui ont traité cette question et ont brainstormé, ont été créatives et nous ont aidés à trouver des solutions.
Et dans ces cas-là, ces gens qui viennent vous aider à dire voilà les mots que vous pouvez employer, que ces jeunes malades peuvent employer, ils sont venus chez vous, dans votre association ? C'est vous qui êtes allé chez eux ?
Alors, tout est possible. En l'occurrence, c'était vraiment un format inter-entreprise qui était organisé à La Défense avec plusieurs entreprises qui sont situées à La Défense. Mais ça peut avoir lieu dans les locaux de l'association ou bien en entreprise. C'est vraiment adapté en fonction de chaque situation. Et c'est la force de dispositifs qui sont vraiment sur mesure.
Alors, moi, je suis assez curieuse de savoir comment vous les avez sentis, ces managers, quand ils ont travaillé avec vous. Est-ce qu'ils étaient vraiment motivés ou vous avez senti un peu comme c'est un peu un passage obligé pour eux ?
Alors, j'ai l'impression quand même qu'ils étaient plutôt motivés. J'ai l'impression que c'était un choix de leur part. Alors, c'est un dispositif qui, en général, dans les entreprises, est proposé par les RH ou la direction. Mais les personnes qui étaient là ont choisi de travailler sur Cheer Up et sur cette cause qui nous touche particulièrement à cœur, les jeunes qui sont atteints d'un cancer. Et en fait, pendant la journée, déjà, la première difficulté, c'était de les mettre, entre guillemets, à niveau, de leur donner un maximum d'informations pour qu'ils comprennent vraiment le contexte, les problématiques face auxquelles nous étions confrontés. Donc ça, c'est toute la première partie de la journée que nous avions préparée avant la journée avec Pro Bono Lab. Et puis après, au fur et à mesure de la journée, eh bien, il y a des méthodes de créativité qui ont été mises en place pour que peu à peu, on aboutisse aux idées.
Et est-ce que vous avez gardé des liens avec eux ? Est-ce que, par exemple, vous pouvez prendre votre téléphone pour poser une question aujourd'hui ou c'est une journée, pas plus ?
Alors, ça dépend de chacun. Là, par exemple, dans quelques jours, nous retournons voir des personnes qui ont participé à cette journée chez Alliance pour traiter d'une autre problématique que nous avons dans l'association. Donc, preuve que l'engagement peut se répéter, oui.
C'est une problématique de communication, je crois, que vous avez eu avec eux. Non, c'est ça ? C'est la stratégie de communication ?
Exactement.
Alexis, on a... Alexis, on vous a retrouvé. 6 jours par an, c'est pas énorme pour vous. Est-ce qu'il vous en faudrait plus ?
Clairement, le plus possible. En fait, on s'est vraiment engagé, nous, dans une démarche de mécénat de compétences qui s'inscrit dans la durée, puisque dans notre association, en fait, la plupart des bénévoles sont étudiants et sont aussi en recherche d'engagement au démarrage de leur vie professionnelle. Et ainsi, il y a des dispositifs qui, de plus en plus, commencent à se mettre en place, comme Vendredi, qui permettent une sorte de prolongement de l'engagement étudiant pendant la vie professionnelle. Et ça, c'est clairement un levier de développement du mécénat de compétences à Cheer Up.
Alors, en tout cas, on rappelle le nom de votre association, c'est Cheer Up. Ça veut dire courage, je crois. Merci beaucoup, Alexis, de nous avoir fait partager votre expérience. Merci aussi à Fabienne, Brigitte, Elsa et Valérie de nous avoir raconté comment cette pratique du pro bono enrichissait leur vie professionnelle. Et à Juliette Finesse pour son éclairage. On l'aura compris à l'écoute de vos témoignages, le pro bono apporte autant à la cause qu'il soutient qu'aux salariés qui lui offrent une partie de son temps, parce qu'aujourd'hui, on a tous besoin de trouver du sens à notre travail. L'argent, les résultats, les performances, c'est bien, mais ça ne suffit plus à faire notre bonheur au travail. Les entreprises ont tout à gagner à s'y mettre. Des salariés heureux, c'est bon pour l'ambiance et encore meilleur pour la productivité. C'est bon aussi pour l'image de l'entreprise qui peut ainsi attirer de jeunes diplômés talentueux et qui ont envie de s'engager, y compris au travail, attirer aussi des clients qui parfois préfèrent les entreprises qui font du pro bono à celles qui n'en font pas.
Alors l'émission s'arrête, mais on peut continuer à en discuter, Eve, sur les réseaux sociaux, le groupe de l'émission d'ailleurs sur la page Facebook d'Europe 1.
Europe 1.
Demain, nous parlerons des violences sexuelles en ligne, qu'on soit un enfant, un ado ou un adulte, comment s'en protéger. Si vous avez reçu des images pornographiques sans l'avoir désiré, si vous avez été victime de revenge porn, autrement dit d'un ex qui fait circuler sur les réseaux sociaux des photos intimes de vous sans votre consentement, ou si votre enfant ou ado a été poursuivi par un prédateur sexuel ou confronté à des messages pornographiques, appelez-nous au 3921 pour témoigner. Merci à Benjamin Lévesque pour la préparation pas complètement bénévole de cette émission. Merci à Boris Paczynski à la réalisation. Merci à vous Marlène.
Et merci à vous Eve, j'ai été ravie de passer cette heure à vos côtés.
Alors je vous laisse maintenant avec Karima Charny pour 2 heures de musique. Chantez, dansez maintenant, c'est dès 16h sur Europe 1. À demain.